السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، la semaine dernière, on a commencé par faire un rappel de toutes les grandes étapes qu'on a vues dans la vie du professeur Sallam. Donc on a bouclé le rappel de tous les événements depuis sa naissance, alayhi salatu wassalam, jusqu'à l'hijra, l'émigration. Sachant que nous, on est arrivé en été, avant la pause estivale, on est arrivé à la bataille de Uhud. Donc là, on fait simplement un rappel des grandes étapes qu'on a vues, et ensuite on reprendra en détail la bataille de Uhud. Donc il nous reste à voir comme grands événements tout ce qui s'est déroulé entre le Hijra, l'émigration, jusqu'à la bataille de Uhud. Nous, on s'est arrêté en plein dans la bataille de Uhud. Naam. Donc on a expliqué que le professeur sallam est arrivé un lundi à Quba. Il y reste jusque le vendredi matin. Il y inaugure la première mosquée dans l'islam, Masjid Quba. C'est d'ailleurs une sunna d'aller y prier au minimum 2 unités de prière lorsqu'on va à Al-Madinah Al-Munawwara. Le professeur sallam, le vendredi, en route, il va s'arrêter à un endroit où il va célébrer la première Jumu'ah. Il y avait déjà des Jumu'ah qui se célébraient avant son arrivée par les Médinois. Ils avaient leur imam. Mais le professeur sallam, à la Mecque, il ne pouvait pas. Le premier Jumu'ah qu'il va lui célébrer, présider, ça va être à ce moment-là, dans un endroit où plus tard on va construire une mosquée à cet endroit-là, puisqu'il va le faire à l'extérieur. Et c'est une mosquée que certains visitent, même s'il n'y a pas de sunna religieuse à visiter cette mosquée lorsqu'on se rend à Médine. C'est une mosquée qui s'appelle aujourd'hui Masjid al-Jumu'ah. Pourquoi ? Parce que justement, c'est le premier Jumu'ah que le professeur sallam a prié à Al-Madinah. Ensuite, le professeur sallam arrive à Al-Madinah. Il est accueilli quartier par quartier qu'il traverse. Comme on avait dit, c'était surtout Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui avait pratiquement une dizaine d'années à ce moment-là, et qui contemple ce grand jour, et qui le raconte avec détail, avec les détails qui ne manquent pas aux yeux d'un enfant. Un enfant est capable de voir des détails auxquels les adultes ne vont pas forcément prêter attention. Et un enfant va peut-être donner de l'importance à des détails auxquels les adultes ne donneront pas. Et c'est pour ça que tous les hadiths qui nous parlent en détail, justement, de l'Hijra et de l'arrivée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina, ils nous viennent de Anas ibn Malik, parce qu'il raconte en détail cette arrivée, Naam, où il explique que les rues étaient bondées de monde, tellement les gens avaient hâte de recevoir, d'accueillir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir, en tout cas on le rappelle, on l'a dit, que cet accueil, il est d'autant plus important pour les Médinois que la plupart d'entre eux ne l'ont jamais vu. C'est la première fois qu'ils vont le voir. Ils croient en lui. Ils se sont convertis, mais ils n'ont jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la première fois, ils le voient. Et il est d'autant plus important cet accueil pour eux que pendant des jours et des jours, ils ont vécu dans l'angoisse, puisque les informateurs leur ont dit que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a quitté avec Abu Bakr Siddiq Makkah, mais qu'il n'avait aucune nouvelle de lui depuis des jours et qu'il était pourchassé à travers le désert par les idolâtres, par toutes les tribus qui voulaient la rançon. Et eux, ils attendaient avec une grande angoisse, est-ce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam va arriver, est-ce qu'il va lui arriver quelque chose, est-ce qu'il va être capturé, est-ce qu'il va être tué, etc., etc. Jusqu'à ce qu'enfin il arrive. Non. À la kulli hal, si je commence à le raconter avec ces détails-là, on va refaire toute Sirah Nabawiyyah. Donc, la seule chose qu'on voulait rappeler, donc, c'était qu'il y a eu la hijra, le professeur sallallahu alayhi wa sallam va être accueilli chez le compagnon Abu Ayyub al-Ansari. Et les premières choses qu'il va mettre en place à Médine, c'est tout d'abord la construction de le masjid Nabawi, mosquée prophétique. Ensuite, il va fraterniser entre le muhajirin et l'ansar. Il va prendre pour chaque muhajir, émigrant de la Mecque, un compagnon de Médine qui va être, d'une certaine manière, son parrain. Celui qui va l'accueillir chez lui et qui va l'aider à tout reprendre à zéro. Parce que ce sont des gens, ce sont des réfugiés. Ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés, c'est ça. C'est des gens qui viennent, qui sont venus, entre guillemets, familièrement pour sauver leur peau, puisqu'ils étaient persécutés, torturés pour leur choix religieux, pour leur croyance. Et donc, ils arrivent avec rien. Ils doivent tout recommencer à zéro, que ce soit matériellement parlant, financièrement parlant, familialement parlant pour certains, moralement, etc. Bref, socialement. Donc, ils auront chacun un Médinois qui va les prendre en charge, qui va les aider à prendre leur envol, afin de faire leur nouvelle vie à Médine. Et c'est l'histoire juste de quelques jours pour certains, de quelques semaines, maximum quelques mois. Ils prennent leur envol et ensuite ils deviennent autonomes. Certains sont dans le commerce, certains dans l'agriculture, etc. Ensuite, le professeur Salem va éditer, faire écrire un pacte que nous, on a appelé « Dostour al-Madina », la constitution de Médine. Où le professeur sallam va mettre en place des règles dans la ville de Médine, parce que la ville de Médine, c'est une ville cosmopolite. C'est une ville où il y a des gens de traditions différentes et de croyances et de religions différentes. À Médine, il y a les musulmans. Mais parmi les musulmans, il y a les muhajiroun, les réfugiés, donc les immigrants. Ils ont leur tradition, leur code et leurs difficultés en tant qu'émigrants. Il y a l'Ansar. L'Ansar, ce sont les compagnons de Médine. Ils sont chez eux, savent qu'ils sont musulmans. Et ils accueillent les émigrants. Il y a les tribus juives. Et on avait dit qu'il y avait deux types de tribus juives à Médine. Il y avait les Hébreux d'origine qui étaient arabisés et les Arabes qui étaient judaïsés. Les Hébreux, c'est-à-dire ils étaient juifs de père en fils et ils se sont arabisés, ils ont appris la langue arabe, ils parlent en arabe, etc. Avec le temps, ils se sont arabisés. Et il y avait des tribus qui à l'origine étaient arabes mais se sont converties au judaïsme, c'est ce qu'on appelle les Arabes judaïsés. Et il y avait les deux. Et même s'ils ont même la même religion, ils ont chacun de ces tribus, leurs codes et leurs traditions qui sont différentes et distinctes. Ensuite, il y a les Bédouins, qui vivent certes autour de Médine, mais qui viennent beaucoup à Médine pour acheter ce qu'ils ont besoin. Et le professeur Hassim doit faire avec tout ça. Et donc il fait ce qu'on appelle la constitution, qui va mettre en accord tout le monde et qui va faire en sorte que tout le monde puisse vivre malgré les différences de chacun. Une constitution qui va être basée justement sur ce qu'on appelle la tolérance. Et le professeur Hassan le fait d'autant plus qu'il a vécu pendant 13 ans, lui et les siens, la persécution à Mecca. Donc il sait ce que c'est que d'être persécuté pour des choix de croyance et pour des choix religieux. Et donc, quand il arrive à Médine et qu'il se trouve chef de Médine et qu'il a affaire à une population qui ont des croyances différentes, des opinions différentes, la chose essentielle pour lui à mettre en place, c'est ça. Quelles règles, quelles lois allons-nous mettre en place pour que nous puissions vivre ensemble et nous respecter les uns les autres? Non. Ensuite, évidemment, les idolâtres ils sont humiliés, les idolâtres de la Mecque, parce qu'ils voulaient capturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient même le tuer la nuit de son émigration. Et il leur a filé entre les doigts. Et la plupart des musulmans ont réussi à immigrer vers Al-Madinah. Donc maintenant, ils ont ce qu'on appelle une daoula, un état, un pays. Et donc, trop, c'est trop pour eux. Et donc, ils vont émettre certaines nouvelles lois, certaines nouvelles règles qui visent à persécuter encore plus, à discriminer encore plus les musulmans qui sont restés chez eux et les musulmans qui ont émigré. Pour les musulmans qui ont émigré, ils confisquent tout ce qu'ils avaient à la Mecque. Leur maison, leur terre, leurs animaux, etc. etc. Ils n'ont plus rien. Deuxième chose, ils interdisent l'accès au lieu saint de toute personne musulmane, qu'elle soit d'origine mécoise ou d'origine médinoise. Même les Ansar qui accueillent les Muhajiroun, les idolâtres leur interdisent à partir de ce moment-là l'accès à la Mecque et au lieu saint. Non. Ensuite, l'autre étape, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation du verset qui permet aux musulmans, puisque jusqu'alors c'était interdit, qui permet aux musulmans de prendre les armes uniquement pour se défendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ce verset, il lui a été révélé, il le transmet à ses compagnons, mais alors qu'il a toutes les bonnes raisons pour le faire, à aucun moment tout de suite il va chercher à le mettre en application. Le verset, il est là, il existe. Mais il ne va pas tout de suite le mettre en application. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche à tout prix un terrain d'entente. Et le terrain d'entente, c'est ce que le Coran dit. Lakum dinukum waliyadin. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Je vous laisse avoir la vôtre, laissez-moi avoir la mienne. C'est sur cette base que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit et a fait rédiger sa constitution à Médine. Et c'est sur cette base qu'il veut trouver un terrain d'entente avec les idolâtres. Mais qui, eux, ne veulent pas entendre raison. Pour eux, ce sont les Mécois, les musulmans de la Mecque, ce sont des fugitifs, des rebelles. C'est comme ça qu'ils les appellent. Taïm. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne met pas tout de suite en application ce verset, mais il va essayer de montrer aux idolâtres que s'il le veut, il peut être menaçant. Comment ? Il va faire des pactes. Et surtout, il va faire un pacte très important avec les Bani Juhayna. Les Bani Juhayna, ce sont ceux qui tiennent la plaine désertique à l'ouest de Médina, entre le Médina vers l'ouest et un peu au sud, jusqu'à la mer Rouge. C'est eux qui vivent sur ces plaines. Ce sont des Bédouins, une grande tribu qui vivent sur ces plaines. C'est leur pays, entre guillemets. Et la route commerciale entre Mecca et Cham, entre la Mecque et le Cham, donc la Syrie, la Jordanie actuelle, passe par leur plaine. Évidemment, les idolâtres, ils ne peuvent pas avoir leur route commerciale qui passe par là sans avoir une entente avec les Bédouins, sinon ils se feraient piller leur caravane. Donc ils ont des arrangements avec les Bani Juhayna pour qu'il n'y ait pas de problème avec eux. Et évidemment, c'est sur toute la route commerciale par là où elle passe, où il y a une tribu connue qui vit par là. Les idolâtres, ils ont des pactes avec eux, moyennant compensation financière ou contre certaines marchandises qu'ils ramènent des caravanes, vous nous laissez passer, ils ont des pactes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cette tribu des Bani Juhayna, elle est proche, et elle contrôle la route commerciale qui est la plus proche de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va conclure un pacte avec eux. C'est quoi ce pacte ? C'est un pacte de non-agression. C'est-à-dire, on ne vous cherche pas de problème et vous ne nous en cherchez pas, non. Et aussi, vous nous laissez libre accès à votre plaine. Et donc, évidemment, c'est une fois de plus quelque chose qui va déranger les idolâtres. Le prophète sallam, il fait un pacte, mais il n'utilise pas ce pacte tout de suite. C'est juste pour montrer. Mais les idolâtres, ils vont, à ce moment-là, envoyer des lettres menaçantes, certaines public et d'autres secrètes. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque il voit que tout ce qu'il a fait ne sert pas, Il va à ce moment-là commencer les premières expéditions, envoyer les premières expéditions. Mais la plupart de ces expéditions, ce sont des expéditions juste pour montrer qu'on est là, qu'on est présent. Mais à aucun moment il y aura vraiment des guerres, des combats qui vont être menés. En tout cas, pas pour les premières. La première expédition qui est envoyée, c'est l'expédition de Sif al-Bahr. Sif al-Bahr, ça s'appelle ainsi parce que l'endroit où va se dérouler cette expédition, c'est un endroit qu'on appelle Sif al-Bahr. Le professeur Hassel m'envoie une délégation, ou en tout cas un groupe de combattants, et à leur tête, il envoie son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, pour essayer d'intercepter une caravane. Et, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois lorsqu'on a étudié toutes ces expéditions, on n'a pas de texte clair dans les livres d'histoire qui nous disent quel ordre précis le professeur Hassem a donné. Mais on peut déduire, à travers ce qui s'est passé lors de ces expéditions, que les musulmans ne cherchaient pas à se battre. Ils cherchaient juste à montrer leur présence. Et encore une fois, le message que le professeur Hassem voulait faire passer, c'était « si on veut, on peut. Mais on ne veut pas de ça, on ne veut pas de la guerre. » Pendant 13 ans, le professeur Hassem a interdit formellement la violence, même contre ceux qui les ont torturés et persécutés, même si c'était pour la légitime défense, c'était interdit. Pendant 13 ans, la Mecque. Ensuite, le professeur Hassem reçoit le verset qui permet la légitime défense, mais il ne l'utilise pas. Et attends, j'ai un verset qui me permet, mais je ne le fais pas. Ensuite, les pactes, mais je ne les utilise pas. Ça ne va pas plus loin qu'un pacte. Je ne coupe pas la route commerciale aux idolâtres. Ensuite, les caravanes, puisque les idolâtres ne veulent pas comprendre, le professeur Hassem envoie des expéditions. Et à chaque fois, toutes ces expéditions, elles se résultent par quoi? Elles se résultent par le fait que les combattants musulmans n'interceptent pas les caravanes. C'est-à-dire que soit la caravane est déjà passée depuis plusieurs jours, quand ils arrivent à l'endroit où ils voulaient les intercepter, ou soit ils les voient et pour le moindre prétexte et la moindre raison, ils annulent le combat. Et finalement, il laisse la caravane passer. Donc, tout ça, ça nous laisse supposer, même si on n'a pas de texte qui le prouve, que le but et l'objectif de ces expéditions n'étaient pas de livrer bataille, mais juste, entre guillemets, de montrer sa puissance pour que l'adversaire comprenne qu'on pourrait aller jusque-là, mais on n'y va pas. Pour qu'on trouve finalement un terrain d'entente. Mais les idolâtres refuse catégoriquement et s'obstine. Et donc la première expédition, c'est Sif al-Bahr. Professeur Salman envoie Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et ça se trouve où, Sif al-Bahr? Dans la plaine des Bani Juhayna, avec qui le professeur Salman a fait un pacte. Et un des chefs des Bani Juhayna va voir que les musulmans interceptent une caravane. Donc c'est la première fois que ça arrive. Et ce chef des Bani Juhayna, Majdi ibn Amr al-Juhani, qui, selon certaines versions, se convertira à l'islam plus tard, mais en tout cas, à ce moment-là, il n'est pas encore converti à l'islam, et il fait partie des chefs des Bani Juhayna, il va venir et il va dire, ne faites pas ça. Vous ne l'avez jamais fait. Et ne le faites pas chez nous. Non. On a un pacte d'entente avec vous, les idolâtres, et on a un pacte d'entente avec vous, les musulmans. Donc, ne faites pas ça. Hamza ibn Abd al-Muttalib va dire, khlas. On a un pacte avec vous, tu nous demandes de les laisser passer, alors on les laisse passer. Mais s'ils continuent à nous faire ce qu'ils nous font, on finira par mener le combat pour nous défendre. Ensuite, deuxième expédition que le professeur se m'envoie, c'est l'expédition de Rabir. L'expédition de Rabir. Il envoie qui à la tête de cette expédition? Son cousin éloigné, Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib radiyallahu anhu. Et ici, il va y avoir entre guillemets la première fois où vraiment il y aura des, ce ne sera pas des combats, mais ils vont se tirer des flèches. Mais de très loin. Mais ils ne vont pas jusqu'à vraiment aller au combat, et donc il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, ni dans un camp, ni dans un autre. Et c'est à cette occasion qu'on dit que le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, c'est le premier à avoir lancé des flèches dans l'islam, à l'occasion de cette expédition. L'expédition d'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie, c'est l'expédition de l'Kharrar. Et justement, il met à la tête de cette expédition Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qui va rater la caravane. Ensuite, il va y avoir l'expédition de Al-Abwa, qui est aussi appelée l'expédition de Waddan. Et c'est la première expédition dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortira lui-même. Il sera à la tête de cette expédition. Les trois qui ont précédé, Sif al-Bahr, Rabir et Al-Kharrar, le prophète sallallahu alayhi a envoyé ses compagnons. Et là, Al-Abwa et Waddan, Al-Abwa ou Waddan, en fonction de comment certains historiens l'appellent, le prophète sallallahu alayhi lui-même sort pendant cette expédition. Mais il va pas, il va rater la caravane. Comme on a dit, la plupart de ces expéditions, elles se soldent par ça. Il va rater la caravane. Et on ne peut pas imaginer qu'à chaque fois, on rate la caravane et que ce n'est pas fait exprès. Une fois, tu peux t'être trompé dans tes calculs, où est-ce que tu vas rencontrer, etc. Mais deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, non. C'est pour ça que j'ai dit, même si on n'a pas de texte, il y a une grande probabilité que c'était calculé, que c'était juste pour montrer, entre guillemets, pour bluffer l'adversaire, pour lui montrer qu'on pourrait, mais on ne va pas jusque-là. Alors, s'il vous plaît, entre guillemets, trouvez un terrain d'entente avec nous. Faisons la paix. La koumdine ou koumwaliyadine. À vous, votre religion, à nous, la nôtre. Mais les idolâtres ne l'entendent pas ainsi, comme on l'a dit. Et donc, le professeur Hassem sort à la bataille de Waddan, que certains appellent aussi Al-Abwa. Et pendant cette bataille, pendant cette expédition, puisqu'il n'intercepte pas la caravane, il va croiser la tribu des Bani Damra, qui aussi vivent d'un autre côté de la route commerciale, sur les plaines qui mènent au Chem. Et le prophète Hassan va leur rendre visite, et il va conclure un pacte avec eux également à cette occasion. Donc il revient sans intercepter la caravane, mais il revient avec un pacte de non-agression avec les Bani Damra. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, la prochaine expédition, lui aussi, c'est lui qui va à la tête de cette expédition, c'est l'expédition de Bouat. Et aussi, ici aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rate la caravane. Ensuite, l'expédition d'après, c'est l'expédition de Al-Ushayra. Expédition de l'Ushayra, ici aussi le professeur Hassan va sortir pendant cette expédition. Et il va revenir avec un pacte avec les Bani Moudlij. Vous vous rappelez qui sont les Bani Moudlij? Bani Moudlij, c'est une tribu qui vit au sud, bien au sud de Médine, et aussi, eux aussi sont proches de la route commerciale. Et c'était chez les Bani Moudlij, qu'on connaissait comme personnes qui étaient capables de retrouver la trace de ceux qui essayaient de se cacher dans le désert. Yani, c'était pas facile. Et eux, ils étaient spécialistes dans cette affaire-là. Et quand on cherchait des rebelles, des fugitifs, et qu'ils étaient très difficiles à retrouver dans le désert, on allait voir qui? On allait voir les Bani Moudlij, contre un salaire, on leur demandait ce service. Retrouvez-nous telle personne qui est fugitive, on n'a aucun indice. Et eux, ils partaient, et ils arrivaient à retrouver ces personnes-là. Les Bani Moudlij sont aussi connus pour être des gens qui, à l'époque, ont pratiqué ça, une forme de... ce qu'on appelle aujourd'hui les profilers. Juste en regardant les personnes, comment ils marchent, la couleur des yeux, les cheveux, etc., les orteils, les doigts, le mohim. En regardant tout ça, ils arrivent à donner un statut à la personne, ou en tout cas à dire cette personne, il est comme ça ou il est comme ça, etc. Il n'y avait pas encore les tests ADN à l'époque. On utilisait même pour dire quand quelqu'un était accusé que un tel n'était pas son enfant, on appelait des gens comme ça. Regarde. Parce que c'est vrai qu'a priori, ils ne se ressemblent pas. Et eux, regardaient, soit ils disaient, ah ouais, ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose qui s'est mal fait. Oui. Ou alors, au contraire, même s'ils ne se ressemblent pas du tout, c'est bien l'enfant de cette personne. Non. Bref, c'était quelque chose qui s'apprenait chez eux dans cette tribu. Et donc, les Bani Moudlij, c'était même eux à qui les idolâtres avaient demandé de l'aide pour retrouver la trace du prophète Hassan, puisqu'ils n'arrivaient pas à le retrouver pendant son immigration. Et tellement ils sont forts dans leur art, alors que le prophète Hassan a pris un des meilleurs guides qui existent à l'époque, Abdullah ibn Urayqit, et que jusqu'à ce que les Bani Moudlij rentrent dans cette affaire, malgré que tous les idolâtres essayaient de retrouver le professeur Hassan, personne ne l'a retrouvé. Et lorsque l'aide des Bani Moudlij va être demandée, là il va être retrouvé, le professeur Hassan. Il va être retrouvé par qui ? Par Suraqa ibn Malik, radiallahu anhu, puisqu'il va se convertir à l'islam, et qui est un des chefs des Bani Moudlij. Mais on avait expliqué que malgré qu'il l'avait retrouvé, il va finalement laisser partir le professeur Hassan. Et alors qu'il vient avec sa lance, Suraqa ibn Malik veut la rançon, il la veut tout seul. Donc il sait où, comment retrouver le professeur Salem, parce qu'il a eu des informations, et donc il va dire à tous les habitants des Bani Moudlij, alors qu'il sait par quel chemin retrouver le professeur Salem, il va leur dire, ce chemin-là, ça ne sert à rien, j'ai été, il n'y a personne. Allez chercher ailleurs. Pourquoi il leur a dit ça? Comme ça, lui, il va justement sur ce chemin-là, retrouver le professeur Salem tout seul, et pour pouvoir avoir la rançon tout seul. Il va retrouver le prophète sallam. Il vient avec sa lance. Il vient pour tuer le prophète sallam. Parce qu'on lui a dit, le prix sera le même, mort ou vif. À ce moment-là, les Quraysh, khlas, ils ne rigolent plus. Ils le veulent mort ou vif, peu importe. La question la plus importante pour eux, c'est qu'ils n'arrivent pas sains et saufs à Médine. Donc qu'on le ramène vivant ou mort, il n'y a plus de différence. Et donc Suraqa ibn Malik arrive avec sa lance. Mais dès qu'il est sur le point de jeter sa lance sur le prophète sallam, et on avait expliqué que le professeur Hassan avançait. Hein? Et il regardait humblement le sol et il récitait le Coran. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, et le guide, voit Suraqa ibn Malik qui arrive avec le cheval et ils alertent le professeur Hassan. Quelqu'un arrive à toute vitesse avec son cheval et il est menaçant, il brandit sa lance. Le professeur Hassan, il continue. Continue à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire il marche et il récite le Coran. Non. Et lorsqu'il est sur le point de lancer la lance, le cheval trébuche et le fait tomber. Au début, il se dit, c'est juste, il a trébuché, ça peut arriver. Mais à chaque fois qu'il reprend son cheval et qu'il essaye de tirer avec la lance, le cheval trébuche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses bâtons, ces petites flèches de divination, ce qu'on appelle azlam. Les idolâtres de l'époque étaient superstitieux et ils avaient ce genre de petites flèches, de petits bâtons, dans un petit sac en cuir. Et généralement, ils en avaient trois. Il y en a un sur lequel il était écrit « oui »,« na'am ». L'autre, il était écrit dessus « la », »,« non ». Et l'autre, il n'était rien écrit dessus, il y en a, je ne sais pas. Et donc, il les mélangeait et il posait une question, soi-disant, à leur divinité. Il leur disait, est-ce qu'il y a un grand bien si je fais telle chose? Et donc, il mélangeait comme ça les bâtons et il prenait un au hasard. Donc, il regarde ce qui allait sortir. Si c'est Naram, ça veut dire, oui, c'est un bien, fais-le. Tes divinités, ils te disent que c'est un bien. C'est l'istikhara chez les idolâtres. S'il y a la flèche qui dit non, alors non, il ne faut pas le faire. Et s'il n'y a rien d'écrit dessus, ça veut dire la divinité, elle ne sait pas. Ils sont réunis tous ensemble, les divinités, ils ont réfléchi, ils n'ont pas trouvé la solution. Donc débrouille-toi. Rambahrak, comme ils disent. Et lui, Suraq ibn Malik, quand il va faire ça, parce qu'il voit que ça fait plusieurs fois que son cheval trébuche et le fait tomber par terre, il se dit, c'est pas normal. Donc il va faire ses flèches. Et il sort quelle flèche ? Celle qui dit non. Subhanallah. Allah Azza wa Jal lui fait sortir celle-là. Et lui, c'est lui qui croit en ça. C'est à lui de respecter ça. C'est que de la superstition. Et malgré ça, lui, il voit la rançon. S'il respecte le nom de cette flèche de divination, alors il perd la rançon. Donc il dit, non, ils ont dû se tromper, je vais le refaire. Donc il refait. Et à chaque fois, c'est le nom qui sort. Et donc à ce moment-là, il se dit, de toute façon, ça ne sert à rien. J'y ai jamais vraiment cru. Et donc il remonte sur son cheval, et au moment à cette fois où il va essayer de tirer avec la lance, là c'est pas juste le cheval, il trébuche, le cheval s'arrête sec et il s'enfonce dans le sol, comme s'il y avait des sables mouvants. Et une colonne de fumée, de poussière, de sable s'élève devant lui. Et là il est terrorisé. Suraq ibn Malik, il comprend qu'il y a quelque chose d'anormal. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, quelque chose de paranormal. Il y a quelque chose qui n'est pas explicable rationnellement. Et donc là, il va sauter de sa monture et il va implorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Protège-moi ». Parce qu'il a peur là, de cette situation, il est terrorisé. Il va lui dire « Donne-moi ta protection ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il va s'adresser à lui, il va lui dire « Seras-tu d'abord capable ?» de faire en sorte que personne ne nous pourchassera sur ce chemin. Parce qu'il sait qu'il est pourchassé par les Bani Moudlij. Il lui a dit, aucun problème, je le ferai, mais d'abord ta protection. Donne-moi ta protection. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Suraq ibn Malik comprend une chose importante. Il comprend qu'il y a quelque chose. En vérité, quelqu'un, Allah Azza wa Jal, qui protège cet homme. Et donc, comme il a essayé de le tuer, il a peur maintenant pour lui-même. Et donc il demande sa protection. Il dit, cet homme qui est protégé, s'il me donne sa protection, alors ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire de mal sera effacé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, d'accord, je te donne ma protection. Suraq ibn Malik, il dit, je veux un écrit. Alors qu'avant, normalement, l'oral suffisait. Il dit, je veux un écrit. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Abu Bakr Siddiq et son guide, écrivez-lui de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je donne ma protection à Suraq ibn Malik des Bani Moudlij, et il va toujours garder secret cet écrit jusqu'à quel moment il la sortira. Au moment de la libération de la Mecque, lorsque les Bani Moudlij, certains parmi eux se convertiront, d'autres refuseront, et que pratiquement toute la péninsule arabique se convertira, et que certains viendront et vont lui dire, est-ce que tu es musulman ? Moi, vous me demandez si je suis musulman. Ouais. Regarde le papier que moi j'ai, moi, qui date des années. Mais avant, comme les musulmans sont minoritaires et tout ça, il ne l'a jamais sorti. C'est pour ça qu'on a des versions différentes sur la conversion. On sait qu'il s'est converti à l'islam, Suraq ibn Malik. Mais à quel moment il l'a vraiment fait ? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est tout, c'était sa conversion, et il a caché sa conversion à l'islam ? Ou alors ça c'était juste une protection, mais il ne s'est pas vraiment converti à l'islam, et c'est plus tard, petit à petit, qu'il a été convaincu par l'islam. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à la libération de la Mecque, il a clairement affirmé, revendiqué sa croyance en l'islam. Ala kulli hal, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse ? Parce qu'on parle des Bani Moudlij dans l'expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'expédition de Safwan, Afwan, l'expédition de l'Ushayra, où le prophète sallam va rater la caravane, mais il va revenir avec un pacte de non-agression avec les Bani Moudlij. Donc c'était pour nous remettre dans le contexte qui sont les Bani Moudlij. Et cette expédition de l'Ushayra, où le prophète sallam a raté la caravane, c'était la caravane de qui ? La caravane d'Abu Sufyan, qui va quelques temps après être la cause de la bataille de Badr. Puisque quand Abu Sufyan va revenir avec la caravane, C'est à ce moment-là que le prophète sallam va essayer d'intercepter cette caravane, ce qui va mettre le feu aux poudres et qui va déclencher la bataille de Badr. Puisque la Mecque vont essayer d'aller défendre cette caravane et ça va se traduire par une grande bataille entre l'armée des idolâtres et l'armée des musulmans de Médine. Et donc c'est à ce moment-là, le Ushayra, que Abu Sufyan est en train d'aller à Sham. Le prophète sallam a raté la caravane, mais il revient avec un pacte avec les Bani Moudlij. Après cette expédition, il y a l'expédition de Safwan, avec Sin. Sin, à ne pas confondre avec le prénom Safwan avec Sad. Safwan, c'est le nom d'un endroit où va se dérouler cette expédition. Et en réalité, certains l'appellent Badr al-Oula, la première Badr. La première Badr. Pourquoi ? Parce que le professeur Hassim va aller jusqu'à Badr pour essayer de rattraper des personnes. Il va essayer de rattraper qui ? Kurz ibn Jabir al-Fihri. C'est un idolâtre qui est venu de nuit et qui va attaquer à la périphérie de Médine des champs de palmiers et piller des récoltes et piller du bétail et des chameaux. Il va tuer ce qu'il ne peut pas prendre et il va prendre les chameaux qu'il peut prendre en guise de butin. Et il va fuir. Au petit matin, lorsque les musulmans se réveillent et découvrent que quelqu'un a tout saccagé et a tué des troupeaux entiers et qu'il a fait brûler les palmiers, ils vont essayer de le rattraper. Le professeur Sim sort avec une expédition pour essayer de le rattraper. Mais il ne va pas réussir à le rattraper. Et il s'arrête tout, le prophète sallam, à Badr. Et à cet endroit-là, il revient. C'est pour ça qu'on appelle cette expédition Badr al-Oula. Pas parce qu'ils sont partis pour chercher la caravane d'Abu Sufyan, puisque celle-là, c'est dans celle d'avant, à l'expédition de l'Ushayra, mais parce que c'est la première fois que le prophète sallam va aller jusqu'à Badr. Ensuite, il y a l'expédition de Nakhla. L'expédition de Nakhla, le professeur Hassan envoie juste 12 hommes. Il envoie juste 12 hommes. Où ? Au sud de la Mecque. Pour surveiller la route commerciale qui mène de la Mecque au Yémen. C'est la route commerciale du sud que les idolâtres utilisent et à propos de laquelle les idolâtres sont persuadés qu'elle est loin de tout danger, de toute menace. Pourquoi ? Parce qu'elle est loin de Médine. Et que pour arriver à cette route commerciale, il faut passer par la Mecque ou à côté de la Mecque, donc c'est extrêmement dangereux pour les musulmans. Les musulmans ne pourraient pas s'aventurer à ça. Donc le prophète sallam envoie 12 hommes, il ne leur demande pas de combattre, il leur demande juste de lui ramener des informations. Probablement pour qu'à l'avenir, s'il veut préparer quelque chose sur cette route commerciale, il aura des informations sûres. Donc il envoie ces 12 hommes. Ça va se traduire par quoi ? Ça va se traduire par la disparition de deux compagnons sur le chemin. Ensuite, donc les deux compagnons, Saad ibn Abi Waqqas et Utbah ibn Ghazawan, radiyallahu anhuma, ils vont disparaître. C'est-à-dire qu'ils vont quitter l'expédition parce qu'ils ont perdu un chameau, ils vont essayer de retrouver le chameau. Et les autres leur disent, on se retrouve à tel endroit, à Nakhla. Mais Mohim, il ne se retrouve pas. En tout cas, il ne se retrouve pas pendant plusieurs jours. Les autres arrivent à Nakhla et alors qu'ils sont là juste pour prendre des informations, ils voient une caravane qui revient du Yémen, qui appartient aux idolâtres, qui est mal surveillée, mal gardée et qui est remplie de provisions et de marchandises. Donc les musulmans qui sont là, ils vont être pris par un dilemme. Premièrement, ils n'ont pas eu d'ordre clair de mener combat, mais ils se disent, si on attaque cette caravane, elle est facile à prendre. Pourquoi on ne le ferait pas ? Et ensuite, ils sont le dernier jour d'un mois sacré. Pendant le mois sacré, on ne livre pas bataille. Mais en même temps, s'ils attendent le lendemain, la caravane, trop tard, elle sera rentrée à la Mecque. Et à l'époque, il n'y a pas les moyens de communication actuels où on peut parler en direct avec comme aujourd'hui avec un savant. pour avoir une fatwa. Non. Donc ils sont obligés de faire leur ijtihad. Et leur ijtihad les conduit à dire tant pis pour le jour sacré, et tant pis même si le professeur ne nous a pas donné un ordre clair, on la prend la caravane. Et les idolâtres vont refuser de livrer leur caravane, donc ça va se traduire par une première, vraiment une vraie première bataille, c'est celle-là, celle de Nakhla. Toutes les autres avant, comme on a dit, c'était juste pour montrer. Et on voit que la seule fois où le prophète sallam n'est pas intervenu directement, c'est les compagnons qui ont fait leur ijtihad, il y a eu bataille. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est un des arguments qui nous a toujours poussé à dire, lorsqu'on a étudié en détail ces expéditions, qui nous ont poussé à dire que le prophète sallam n'a jamais voulu en arriver là. Non. Et donc, ils vont livrer bataille. Ça va se traduire par un mort côté idolâtre, deux prisonniers côté idolâtre. Et donc là, à partir de ce moment-là, les musulmans qui sont à cet endroit-là, ils savent qu'ils vont être pourchassés par les Mécois lorsqu'ils vont le savoir. Donc, à toute vitesse, ils essayent de retourner à Médine. Et ils arrivent à retourner à Médine. Donc là, il y aura des négociations pour la libération des deux prisonniers idolâtres. Mais le professeur sallam, il lui manque deux compagnons. On a dit qu'il y en a deux qui ont disparu. Sa'ad ibn Abi Waqqas et Utba ibn Ghazawan. Donc le professeur Hassan leur dit, je les libérerai quand j'aurai des nouvelles de mes deux compagnons qui ont disparu. Parce qu'à ce moment-là, le professeur Hassan ne sait pas s'ils ont juste disparu, s'ils se cachent quelque part dans le désert, ou s'ils ont été capturés ou tués par les idolâtres de la Mecque. Donc tant qu'il n'a pas d'informations, il refuse de les libérer. Finalement, Saad ibn Abi Waqqas et Utba ibn Ghazawan font réapparition. En fait, ils s'étaient perdus dans le désert, ils ont appris ce qui s'était passé, donc ils se sont cachés quelque temps dans le désert, le temps qu'on les oublie, et ensuite ils sont rentrés à Médine. Et quand le professeur Asma a vu qu'ils sont rentrés sains et saufs, il a donné la liberté aux deux idolâtres qu'il avait fait prisonniers, sauf qu'un des deux refusera de rentrer chez lui, il va se convertir à l'islam et rester à Médine. Quant au deuxième, il va rentrer chez lui à la Mecque. Non. Ensuite, il va y avoir la bataille de Badr. Après Al-Nakhla, il va y avoir la bataille de Badr. Le professeur Hassan va sortir avec une armée de 300 et quelques hommes pour intercepter la caravane d'Abu Sufyan. Et il est sur le point de l'intercepter, sauf que les idolâtres de la Mecque vont monter une armée. Parce qu'Abu Sufyan, lorsque ses informateurs vont lui dire, puisqu'il sait que lors de l'expédition de l'Ushayra, il y avait le professeur Hassan qui voulait déjà l'intercepter, mais il l'a raté. Donc quand il revient, il est sur ses gardes. Il envoie d'abord des espions, des informateurs, il prend les informations, et on lui dit, il y a une armée de 300 et quelques hommes. Alors qu'eux, ils ne sont que 35 dans cette caravane. Il y a une armée de 300 et quelques hommes qui sont sortis de Médine, et qu'ils vont essayer de t'intercepter à Badr. Donc qu'est-ce qu'il fait, Abu Sufyan ? Il prend toutes les précautions possibles. C'est deux mesures principales qu'il prend. La première, c'est qu'il envoie un messager, Damdam ibn Amr al-Ghifari, à la Mecque, pour demander l'aide des Mécois contre les musulmans. Et la deuxième mesure, c'est qu'il était prévu qu'il passe par Badr, mais finalement il va contourner Badr, pour essayer de faire en sorte que les musulmans ne puissent pas intercepter sa caravane. Et les Mécois, donc, quand ils vont recevoir le messager d'Amdam ibn Amr al-Rifari, on avait dit dans quelles conditions il va informer les idolâtres, il va être debout sur son chameau, il va crier, il va balafrer le museau de son chameau, et il va crier comme un fou, « À l'aide, à l'aide, à l'aide !» sans tout de suite expliquer ce qui se passe pour qu'il y ait plus de personnes autour de lui. Et il va dire « Al-latima, al-latima ». Et « latima » en arabe littéraire, ça veut dire c'est le qafila, c'est la caravane. Mais pas n'importe quelle caravane. Qafila, c'est une caravane. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être un peu de richesse, il y a peut-être du bétail, il y a peut-être des récoltes. Mais « latima », ça veut dire la caravane dans laquelle il y a énormément de marchandises. Yani, c'est la caravane qui a réussi, c'est le business. Yani. Aïwa. C'est le CAC 40 de l'époque. Et donc lui, il dit « Al-latima, al-latima ». Qu'ils comprennent, la grande caravane, la caravane d'Abu Sufyan, elle est remplie de marchandises, qui revient de Cham avec les bénéfices. Et tout le monde a une part, c'est comme ça que ça se passait. Les gens, ils louaient les services des voyageurs, et ils leur disaient « Tiens, vends-moi ces marchandises et en échange, achète-moi ceci ou ramène-moi les bénéfices. Et les gens, il est transporté contre un salaire. C'est comme ça que ça se passait. Donc les gens de la Mecque, ils ont tous une partie de leur richesse là-dedans. Et donc ils vont dire, que lui est-il arrivé ? Il va dire, je ne pense pas. Là, avunnu an tudrikuha. Je ne pense pas que vous allez réussir à la sauver, à la rattraper. Ben, leur explique. Et il va expliquer. Et donc ils vont sonner la mobilisation générale. Et donc 1300 hommes vont sortir de la Mecque pour la bataille de Badr. Et on sait comment va se traduire la bataille de Badr, malgré le fait qu'il y aura 1300 hommes contre 300 musulmans. Elle va se traduire par une victoire des musulmans sur les idolâtres. Donc là, c'est le rappel des événements jusqu'à la bataille de Badr. Il nous reste à voir le rappel des événements de la bataille de Badr jusqu'à là où nous étions arrivés, c'est-à-dire la bataille de Uhud. Et ça, c'est ce que nous ferons la fois prochaine. Bidnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.